de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, le coin diplomatique, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Gaza n'est plus habitable. L'ONU appelle à l'arrêt de la guerre. Susilo Bambang Yudhoyono estime que l'élection présidentielle de 2024 pourrait influencer la géopolitique et la sécurité en Asie. L'équipe nationale indonésienne est arrivée au Qatar pour la Coupe d'Asie 2023. En partant pour l'Arabie Saoudite, le ministre indonésien de la Religion discute du Ta'limatul Hajj avec le ministère du Hajj de l'Arabie Saoudite. Modification météorologique du BNPB pour anticiper les catastrophes hydrométéorologiques. 95 citoyens indonésiens au Japon ont perdu leur maison à cause du tremblement de terre. BMKG met en garde contre les vagues de haute mer dans 26 eaux territoriales indonésiennes. Bonjour, je t'en voici les nouvelles en complet. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Martin Griffiths, a appelé la communauté internationale à user de toute son influence pour mettre fin à la guerre à Gaza. Citant Tempo, dimanche 7 janvier, 90 jours de combats à Gaza ont rendu la région de Palestine inhabitable. L'ONU déclare officiellement que plus de 10 000 Palestiniens ont été tués ou blessés. Pendant ce temps, leur résidence était bombardée par Israël et tout cela était surveillé par la communauté mondiale. Griffiths a déclaré qu'un certain nombre de maladies infectieuses se propageaient parmi les résidents vivant dans des refuges surpeuplés en raison de conduites d'égouts bloquées. Le sixième président de la République d'Indonésie, Susilo Bambang Yudhoyono, a déclaré que l'élection présidentielle de 2024 de la République d'Indonésie pourrait affecter la stabilité politique dans la région asiatique. Dans le compte X, @SBYudhoyono, dimanche 7 janvier, cité par Compass.com, a écrit Susilo Bambang Yudhoyono, l'Indonésie est le plus grand pays d'Asie du Sud-Est en plus d'être membre de G20. C'est pourquoi l'Indonésie est souvent considérée comme une puissance régionale et en même temps un acteur mondial. Par conséquent, a déclaré Susilo, le président élu de la République d'Indonésie doit avoir une compréhension suffisante de la géopolitique pour maintenir la sécurité de la région asiatique, Asie de l'Est et Asie de l'Ouest. L'équipe nationale indonésienne est arrivée dimanche 7 janvier à Doha au Qatar pour participer à la Coupe d'Asie 2023. Selon le communiqué de l'Association de football de la République d'Indonésie cité par Kompas.com, l'équipe de l'entraîneur Shin Tae-yong a effectué leur premier entraînement à Al-Fil Egla 2, Doha, dans l'après-midi pour s'adapter aux conditions météorologiques et du terrain. Auparavant, à Turquie, l'équipe nationale indonésienne avait disputé deux matchs d'essai contre la Libye mardi 2 janvier et vendredi 5 janvier. Le ministre de la Religion de la République d'Indonésie, Yaqut Khalil Komas, dimanche 7 janvier, est parti pour l'Arabie Saoudite pour discuter du Ta'limatul Hajj avec le ministère saoudien du Hajj. Ta'limatul Hajj est un guide concernant le Hajj publié par le ministère du Hajj et de la Omra d'Arabie Saoudite. Le ministre Yaqut a déclaré que son départ pour signer le Ta'limatul Hajj marquait la continuité du processus de service du gouvernement aux pèlerins indonésiens du Hajj. Il a également déclaré que plusieurs choses seraient demandées aux Saoudiens, notamment des officiers supplémentaires pour le Hajj. Le ministre de la Religion devrait effectuer une visite de travail en Arabie Saoudite jusqu'au 11 janvier 2024. Un certain nombre de programmes seront mis en œuvre dans le but d'améliorer les services du Hajj en 2024, notamment le suivi du processus de fourniture de services pour le Hajj indonésien. Pèlerins en Arabie Saoudite, y compris l'hébergement, le transport et la restauration. L'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, mène des opérations de technologie de modification météorologique, TMC, dans le but d'atténuer et d'anticiper les catastrophes hydrométéorologiques humides potentielles au début de 2024. Cité par Antara, à partir du communiqué de BNPB dimanche 7 janvier, TMC a été menée conjointement par des ministères, des institutions telles que l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, BMKG, l'Agence nationale de recherche et d'innovation, BRIN, le ministère des Transports, l'Armée nationale indonésienne, la police nationale indonésienne et d'autres secteurs, selon les résultats de la décision de la réunion de coordination sur 21 décembre 2023. Lors de la réunion de coordination entre les ministères et les institutions, BMKG a fourni des informations sur les prévisions météorologiques pour le début de 2024, qui pourraient connaître des précipitations modérées à très élevées sur l'île de Java et d'autres régions d'Indonésie. Pas moins de 95 citoyens indonésiens ont perdu leur maison à la suite du séisme de magnitude 7,6 qui a secoué la préfecture d'Ishikawa le 1er janvier. Cité par Antara dimanche 7 janvier, l'ambassade d'Indonésie à Tokyo a également signalé d'un total de 183 citoyens indonésiens ont été touchés dans 9 endroits de la préfecture d'Ishikawa. Il y avait 170 citoyens indonésiens qui étaient rentrés chez eux, tandis que 13 personnes se trouvaient toujours dans des refuges dans deux endroits. À ce sujet, l'ambassadeur d'Indonésie au Japon, Heri Ahmadi, a déclaré que son parti avait distribué une assistance logistique aux citoyens indonésiens touchés sous forme d'eau minérale, de plats prêts à manger, de mouchoirs et d'autres produits de première nécessité. Il a également ajouté que son parti continue de collecter des données sur les citoyens indonésiens touchés par le tremblement de terre pour connaître leur localisation et leurs conditions de résidence. L'Agence de météorologie, climatologie Et géophysique, BMKG, demande au public d'être conscient du potentiel de vagues de haute mer dans 26 eaux indonésiennes qui entrera en vigueur les 8 et 9 janvier 2024. Chef du Centre de météorologie maritime du BMKG, Eko Prasetyo, une déclaration écrite citée par Antara lundi 8 janvier, rappelle aux personnes qui vivent et exercent des activités sur la côte autour des zones où des fortes vagues sont susceptibles de se produire de toujours être vigilantes face au risque de fortes vagues. Eko Prasetyo a appelé le public, en particulier les pêcheurs, à prêter attention aux risques élevés pour la sécurité des transports maritimes, tels que les bateaux de pêche, les barges ou ferries, et les grands navires, tels que les cargos, les navires de croisière. Bonjour, je vous dis, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique L'accueil diplomatique intitulée L'ambassade d'Indonésie à Riyad organise une discussion sur la critique du livre sur la vie et héritage scientifique de Sheikh Nawawi al-Bantani. L'ambassade de la République d'Indonésie à Riyad, par l'intermédiaire de l'attaché à l'éducation et à la culture, a organisé une discussion de critique de livres expliquant la vie et l'héritage scientifique de Sheikh Nawawi al-Bantani au bureau de l'ambassade d'Indonésie à Riyad, mercredi 3 janvier. Sheikh Nawawi al-Bantani, qui vécut de 1812 jusqu'à 1897, fut un éminent professeur de la région du Hejaz et de l'archipel au XIXe siècle. Dans son discours, l'ambassadeur d'Indonésie auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdul Aziz Ahmad, a déclaré que l'ambassade d'Indonésie à Riyad s'engageait à continuer d'être à l'avant-garde pour inspirer et faciliter des activités qui enrichissent la vision islamique et nationale, notamment pour la jeune génération. L'ambassadeur Abdul Aziz Ahmad a rendu hommage à Cheikh Nawawi al-Bantani en tant que fière figure de l'Indonésie et du monde islamique en général. Il a souligné l'importance de poursuivre l'héritage scientifique des chercheurs précédents comme base de succès des musulmans d'aujourd'hui. Deux intervenants principaux ainsi que l'auteur du livre Cheikh Nawawi al-Bantani, grand maître des ulémas du Hejaz et l'archipel du 19e siècle, à savoir Mufti Ali et Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin, fournissent une compréhension approfondie du parcours de vie et des grands services de Cheikh Nawawi al-Bantani. Le Mufti Ali, dans sa présentation, a souligné le rôle crucial de ces ulémas en expliquant les données et les archives obtenues sur Cheikh Nawawi auprès de diverses bibliothèques d'Indonésie et des Pays-Bas. Avec ces données, le rôle et le caractère de ces ulémas peuvent être scientifiquement expliqués. Pendant ce temps, Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin a souligné le rôle de Cheikh Nawawi al-Bantani, notamment dans le contexte indonésien, a souligné l'importance de la contribution de ces ulémas dans le maintien des traditions scientifiques. À la même occasion, l'attaché éducatif et culturel de l'ambassade d'Indonésie à Riyad, Badrus Soleh, a déclaré que le livre serait encouragé à être traduit en arabe afin que davantage de lecteurs à travers le monde comprennent le rôle de Cheikh Nawawi al-Bantani dans le développement des études islamiques dans le monde. Badrus a déclaré que la recherche sur les manuscrits des ulémas indonésiens dans le Hejaz sera continuée en collaboration avec des universités et des parties prenantes en Indonésie et en Arabie Saoudite, afin qu'il ait un impact positif sur la diplomatie indonésienne en Arabie Saoudite et au Moyen-Orient. Plus de 300 livres ont été écrits par des ulémas indonésiens vers le 19e siècle dans le Hejaz. La discussion a été réunie 60 personnes composées de diverses personnalités, étudiants et d'un grand public enthousiaste à Riyad, l'Arabie Saoudite. Chers amis, c'était la rubrique « L'accueil diplomatique » de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'histoire d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec le 8 janvier 1983, date de naissance du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Chers auditeurs, le 8 janvier 1983 a lieu la naissance du chef suprême de la République populaire démocratique de Corée du Nord, Kim Jong-un. Kim Jong-un était le fils de Kim Jong-il avec une de ses épouses, Ko Yong-hee, et petit-fils de Kim Il-sung, tous deux anciens dirigeants de la Corée du Nord. Avant de devenir chef suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un a été premier secrétaire du Parti de travail de Corée, premier président de la Commission militaire centrale, commandant suprême de l'armée populaire coréenne et membre de présidium du Politburo du Parti des travailleurs de Corée du Nord. Depuis fin 2010, Kim Jong-un est considéré comme l'héritier présumé du leadership de la Corée du Nord. Le 28 décembre 2011, Kim Jong-un a été officiellement déclaré chef suprême de la Corée du Nord après les funérailles nationales de son père. Chers amis, nous continuons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement de 8 janvier 1996. otage de 26 membres de l'équipe d'expédition Lawrence 85 par OPM. Chargé tard le 8 janvier 1996, la crise des otages de Mapenduma s'est produite. La crise des otages de Mapenduma était une crise des otages qui s'est produite à Mapendua, Jayawijaya, où 26 membres de l'équipe d'expédition Lawrence 95 ont été pris en otage par l'AI militaire de l'armée, organisation de Papouasie libre OPM dirigée par Kelly Kwalik. La mission de libération des otages a pris fin le 9 mai 1996 après le raid contre le quartier général de l'OPM à Glama, village de Mimika, mené par l'équipe de commandement des forces spéciales dirigées par Prabo Subianto, qui était alors commandant général de forces spéciales. L'histoire de la détention et de la libération du prisonnier est racontée dans le livre intitulé Hostages, 130 Days Trapped in Mapenduma de Ray Rizal et continué par Nina Pane sur la base de l'histoire à Dinda Arimbi Saraswati, l'un des otages qui ont survécu. Chers amis, nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec le 8 janvier 2009. Les archéologues ont découvert la momie de la reine Sushistat. Chers amis, des fouilles archéologiques effectuées dans deux tombeaux antiques de Saqqara ont mis en jour la momie d'une reine égyptienne antique. Le corps préservé a été découvert sous l'une des pyramides récemment découvertes par les archéologues égyptiens. Chef du conseil archéologique égyptien Zahi Hawass a déclaré « La momie pourrait être le corps de la reine Sushistat qui a régné il y a environ 4300 ans. Sushistat était la mère du roi Teti, le fondateur de la sixième dynastie du royaume égyptien antique. L'état des historiens, la reine Sushistat a régné pendant 11 ans. Les antiquités de la chambre funéraire sont déjà entièrement filées, à l'exception du sarcophage contenant la momie. Zahi Hawass a dit, dans le sarcophage, il y avait un crâne ou des os de jambes, des os du bassin et d'autres parties du corps enveloppées dans du tissu en lin. Il y avait aussi de la poterie et des protège-doigts en or. Le nom Sushistat n'a pas été trouvé sur les coins des pyramides. Cependant, les caractéristiques pointent vers le corps de Sushistat. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui. Driving my bride through the city in the night, looking for the spotlights to shine, shining down on me so bright. Driving my bride through the city in the night, everything is good and all right. We're gonna party till the morning light.
the city in the night, looking for the spotlights to shine, shining down on me so bright. Driving my ride through the city in the night, everything is good and alright. We're gonna party till the morning.
Chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Bonjour, bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée L'indice de développement du genre augmentera en 2023. Les femmes deviendront plus autonomes. Le ministère de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance a déclaré qu'en 2023, les femmes seront de plus en plus autonomisées, comme le montre l'augmentation de l'indice de développement du genre. Le député pour l'égalité du genre au ministère de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance, Madame Leni N. Rosaline, a déclaré à Jakarta samedi que les femmes sont de plus en plus autonomes, capables de contribuer à un revenu important à la famille, occuper des postes stratégiques sur le lieu de travail et s'impliquer dans la politique de développement en augmentant la représentation des femmes dans l'institution législative. Ceci est démontré par l'augmentation de l'indice d'autonomisation du genre. Citant un rapport d'Antara, Leni N. Rosaline a déclaré que l'autonomisation des femmes constituerait une base solide pour le développement de la nation. La représentation des femmes dans des secteurs importants et sectoriels contribue également à une égalité de plus en plus égale entre les genres en Indonésie. Elle a déclaré que de plus en plus de femmes deviennent des leaders dans les villages en tant que chef de village ou chef régionaux ou bien leaders dans les ministères ou les institutions. Le ministère de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance vise à améliorer la qualité et le rôle des femmes dans le développement en 2024. En 2024, l'engagement du ministère de l'autonomisation en faveur de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance continuera d'être accru. Le ministre de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance, Bintang Puspayoga, a ajouté que son parti se concentrerait sur le renforcement des institutions et l'amélioration des services publics, notamment concernant les 5 orientations prioritaires du président, en donnant la priorité à la synergie et à la collaboration entre le secteur, tel que le gouvernement central et régional, la communauté, le monde des affaires et des médias. L'indice de développement du genre est l'un des indices publiés chaque année par l'Agence centrale des statistiques pour mesurer le niveau de réussite de développement qui a pris en compte les questions de genre. L'indice de développement du genre est obtenu en comparant l'indice de développement humain des femmes à des hommes. L'indice de développement de genre peut décrire l'écart dans les réalisations en matière de développement entre les femmes et les hommes. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
De Jakarta, voici la Voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Manjamu, membuat aku.
Oh.
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la colline de Kaaba à Bengkulu. La colline de Kaaba fait partie du parc de tourisme naturel, la zone de conservation de la plus grande fleur du monde, à savoir la fleur géante Rafflesia arnoldi, et à une superficie d'environ 13 940 hectares et se trouve à une altitude de 1937 mètres au-dessous du niveau de la mer. Cette zone touristique naturelle se trouve dans la région de Rejang Lebong, dans la province de Bengkulu, environ 90 km à l'ouest de la ville de Bengkulu. Pour les visiteurs qui souhaitent visiter cet endroit, vous pouvez y accéder depuis la ville de Bengkulu ou la ville de Palembang via la région de Lahat. L'accès à ce lieu touristique naturel est également assez facile. Les conditions naturelles environnantes, qui sont encore très belles, faisant de cet endroit l'une des attractions touristiques préférées des visiteurs, notamment des habitants de Bengkulu ou des grimpeurs des Bhoutan. Les visiteurs qui viennent à cet endroit se verront présenter une vue naturelle sous la forme d'une forêt tropicale humide qui est encore très naturelle et donne une impression de calme et l'air est assez frais. Pour accéder au sommet de cette colline, il existe deux points d'accès, à savoir par un sentier piétonnier qui ne peut être parcouru qu'à pied ou par une route goudronnée qui peut être parcourue aussi par des véhicules à deux ou quatre roues. Des sentiers peuvent être choisis pour les visiteurs qui souhaitent profiter d'une atmosphère naturelle avec des activités de randonnée. Le chemin pavé est quant à lui destiné aux visiteurs qui n'ont pas assez d'endurance pour marcher à pied. Des sentiers peuvent être choisis pour les visiteurs qui souhaitent profiter d'une atmosphère naturelle avec des activités de randonnée. Le chemin pavé est quant à lui destiné aux visiteurs qui n'ont pas assez d'endurance pour marcher à pied. Au début de la montée, les visiteurs verront des potagères appartenant aux résidents locaux. En entrant dans la zone forestière, les visiteurs ressentiront la fraîcheur de l'air et le chant des oiseaux. Plus on monte, plus la végétation arborée diminue. Cela indique que le voyage se rapproche du lieu de camping. Cet emplacement de camping est souvent utilisé par les visiteurs pour profiter de la vue sur le lever ou bien le coucher du soleil. À partir de cet endroit, les visiteurs peuvent continuer le voyage qui est divisé en deux autres itinéraires, à savoir les itinéraires ascendants et descendants. Les visiteurs qui souhaitent profiter de la vue sur le cratère de la montagne depuis le sommet de la colline choisiront la voie d'escalade, tandis que ceux qui souhaitent voir le cratère de près choisiront la voie de descente. Pour les visiteurs qui souhaitent voir le cratère de près, il est recommandé de porter un masque parce que l'odeur de soufre est très forte autour du cratère. Dans cette zone touristique, il existe plusieurs installations construites par la direction pour le confort des visiteurs. Le responsable de cette colline, également connu sous le nom de groupe de sensibilisation du tourisme, offre des installations telles que le transport, l'hébergement, la nourriture ou le restaurant aux grimpeurs qui choisissent de camper sur place. Le prix du billet d'entrée proposé par la direction est assez bon marché, environ 5000 roupies par personne et des services des entreprises villageoises de 605000 roupies. Pendant ce temps, les frais de stationnement de véhicules varient de 10 000 roupies jusqu'à 15 000 roupies. Chaque année, c'est à la rubrique magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Let's get serious.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di perusahaan ekspedisi signifie à la compagnie d'expédition. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Per sepeda motor. Je répète, Per sepeda motor signifie par moto. Cette conversation a eu lieu entre Chris, un vlogueur australien et employé dans une agence d'expédition dans la ville de Semarang. L'employé a répondu à la question de Chris en l'informant des frais d'expédition de la moto. Écoutons le dialogue.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Per sepeda motor. Per sepeda motor signifie par moto. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Biaya. Biaya signifie les frais. Pengiriman. Pengiriman signifie l'expédition. Dari Semarang. Dari Semarang signifie de Semarang. Ke Palangkaraya. Ke Palangkaraya signifie à Palangkaraya. 1.300.000 rupiah. 1.300.000 rupiah signifie 1.300.000 rupiah. Per. Per signifie par. Sepeda motor. Sepeda motor signifie la moto. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor signifie le frais d'expédition de Semarang à Palangkaraya Rp1.300.000 par moto. Berapa biaya? Berapa biaya signifie combien ça coûte? Mengirim. Mengirim signifie envoyer. Dans la conversation, vous entendez la phrase biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Je répète. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Signifie les frais d'expédition de Semarang à Palangkaraya Rp1.300.000 par moto. Dans cette phrase, il y a une expression per sepeda motor. per sepeda motor signifie par moto. Le mot per signifie par, c'est-à-dire chacun ou un, fonctionne pour marquer le nombre de motos, ce qui signifie une moto. L'expression per sepeda motor signifie par moto, signifie chaque ou une moto. Écoutons un autre exemple d'utilisation du mot per. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan 100.000 rupiah. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan 100.000 rupiah. Signifie, les frais d'adhésion mensuels à ce centre de remise en forme sont 5.000 rupiah. Harga tiket bioskop 50.000 rupiah per orang. Harga tiket bioskop 50.000 rupiah per orang. Signifie prix du billet de cinéma 50.000 rupiah per personne. En Indonésie, le terme désignant un véhicule motorisé à deux roues est sepeda motor, ce qui signifie la moto. Cependant, la majorité des Indonésiens appellent sepeda motor un motor. Motor, ce qui signifie la moto. Dans certaines régions, il y a aussi des gens qui appellent les motos un kereta. Kereta. Cela veut dire le train. Enfin, il y a aussi ce qu'il appelle une certaine marque de moto. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir! Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir à tous et à toutes. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson keroncong intitulée Penjaga Hati, chantée par Anggi Rian et New Normal Keroncong. Chers amis, cette chanson sortie en 2001 a été popularisé par le célèbre chanteur solo indonésien Ari Lasso. Cette chanson, écrite par Piyu Padi, raconte l'histoire d'une personne qui aspire à son idole et lui tellement la même qu'il imagine que lorsque son idole viendra, il abandonnera toute sa vie pour être le gardien du cœur de son idole. Pour changer d'art, voici La chanson crunchant intitulée Penjaga Hati, chantée par Anguirian et New Normal Crunchant. Bonne écoute.
Tak pernah aku impikan betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas harapan tulus cintamu. Ku menunggu seutas harapan tulus cintamu. Takkan ku temui wanita sepertimu, takkan ku dapatkan rasa cinta ini. Rasa cinta ini
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.